9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Philippe Etchebest.
Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour Philippe.
Cuisinier doublement étoilé, vous êtes l'une des figures du jury Top Chef sur M6. On vous reconnaît, pour qui ne vous aurait pas vu à la radio, à votre crâne rasé et votre physique de rugbyman. Et justement, le rugby, vous en avez fait, mais également de la boxe, de la batterie. Et je n'oublie surtout pas la cuisine. Meilleur ouvrier de France en 2000, puis vos 2 étoiles à Saint-Émilion, puis l'étoile que vous avez obtenue dans votre nouveau restaurant à Bordeaux. Et là, ce soir, M6 vous consacre une soirée spéciale avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine et surtout un documentaire qui raconte votre parcours. Ça s'appelle Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun. Comme je sais que vous êtes toujours méfiant quand il s'agit de médias, pourquoi cette fois avoir dit oui à ce documentaire?
Alors, pour revenir à la genèse du projet, c'était parti au départ sur l'idée de faire un petit document sur la fête de la musique. Donc, vous avez compris, ça a légèrement dévié.
Ah bah oui, parce qu'il y a un tout petit peu de musique et beaucoup d'Etchebest quand même.
Oui. Ouais, mais c'est un projet qui date de y a 3 ans déjà. Ouais.
Plus profondément, chef, je vous pose la question parce que beaucoup de chefs médiatisés disent que leur notoriété leur a parfois porté préjudice au moment d'obtenir des étoiles de la part du guide Michelin, par exemple Cyril Lignac, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parfois vous n'avez pas peur d'être trop exposé?
Non, enfin je fais attention. Alors, c'est vrai que je suis exposé malgré tout, mais ça ne m'empêche pas de faire correctement mon métier. Mon métier principal, c'est la cuisine. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que je ferai encore après. Donc voilà, j'essaie de faire en tout cas au mieux tout ce que j'entreprends. Voilà.
Dans ce documentaire, Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun, il y a beaucoup de gens qui parlent, dont notamment votre ancien collègue Fabrice Lascaux. Vous l'avez connu quand vous aviez démarré au restaurant étoilé du Méridien. C'était il y a 30 ans, ou pas loin. Et voici le portrait du jeune débutant extrêmement prometteur que vous étiez.
Au travail, c'était le chef. Par contre, quand on sortait, je veux dire, il changeait de costume.
Ladies and gentlemen, Mr. Philippe.
C'est un meneur d'équipe, Philippe. Ça, je pense que les collègues nous le confirmeront. Il n'y a pas photo. Et ça, je pense qu'il... Pour ça, il est parfait, ce con.
Il est parfait, ce con, c'est lui qui le dit. Est-ce que vous avez validé le montage final?
Ouais, je l'ai vu. Ah bon. J'ai dit, putain, vous passez ça. Ah, ça, ouais. Ça craint. Mais ouais, non, mais c'est rigolo.
Non, mais il le dit de manière très bienveillante et très amicale.
Oui, c'est bienveillant, c'est sûr. Et puis, les messages de sympathie de Fabrice, ouais, notamment. Alors, Fabrice, il faut savoir qu'au départ, il était apprenti. Ouais. Il était apprenti au Chipiron, dans le restaurant de mon père où je travaillais pendant 2 ans et demi. Et je l'ai pris avec moi quand il a eu fini son apprentissage. Je l'ai pris avec moi à Paris, quand je travaillais à Paris. Donc, il m'a suivi un petit peu dans ce parcours. Fabrice, c'est un garçon extraordinaire. Aujourd'hui, il est viticulteur, il est vigneron. Mais c'est un garçon extrêmement sympathique et courageux.
Dans le film, il y a vos parents, mais il n'y a ni votre épouse, ni votre fils, un enfant que vous avez adopté au Mexique en 2005. Pour quelle raison?
Ah, je ne veux pas tout montrer non plus. C'est vrai que je me garde ce petit jardin secret, on va dire. Voilà. J'ai accepté de faire ce documentaire sous une autre forme puisque, comme je vous l'ai dit au départ, ça devait être autour de l'affaire de la musique. Ah ouais. Mais voilà, en montrant peut-être des images un peu inédites, même si on sait que j'ai déjà fait de la boxe, que j'ai déjà fait du rugby, que je fais aussi un peu de musique, c'est un moyen de le découvrir en images. Ah ouais. On voit un petit peu mes parents. Mais après, c'est vrai que bon, pour ce qui est de mon épouse et mon fils, ça, je garde ça de côté. Je préfère.
Alors, on va voir des sacrés documents ce soir, notamment des vidéos en VHS avec le son un peu pourri, le rouge qui dégueule. On vous voit en cuisine, évidemment, mais aussi autour d'un piano en train de chanter les Beatles et aussi en train de boxer sur un ring en public. Alors que le reste de la semaine, vous étiez second dans un resto étoilé à Toulouse. Question boxe, vous êtes monté jusqu'à quel niveau et dans quelle catégorie, Philippe Etchebest?
Alors, j'étais en catégorie mi-lourd à l'époque, je faisais 82 kilos et j'ai boxé jusqu'au championnat Midi-Pyrénées. J'étais champion Midi-Pyrénées en mi-lourd en 93 et ça a été une expérience incroyable et j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'étais au Jardin de l'Opéra avec Dominique Toulouzi. Et c'est vrai qu'à un moment, Dominique Toulouzi m'avait dit « Bon, Philippe, à mon nez, il faut peut-être que tu choisisses aussi, t'es doué en cuisine, donc voilà, la boxe, c'est bien. » Mais parce que c'est vrai que je lui demandais en plus d'aller boxer, hein, le samedi soir, et je demandais à passer en premier dans les galas de boxe pour être disponible après pour le service. Ouais. Alors malgré tout, j'arrivais en cours de service, mais j'avais fait un combat avant. Ouais. Voilà.
Il y a des images impressionnantes de vous sur le ring, et ce qui est impressionnant également, c'est votre emploi du temps de l'époque.
J'aimais ça, j'aimais le contact. C'est tellement intense, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, et j'aime ce rapport de force. J'aime m'entraîner tous les jours. 5 jours par semaine, j'étais à la salle. bossais 6 jours sur 7 à l'époque. 8 heures, j'étais au marché, 9 heures en cuisine, 15 heures, je sortais de la cuisine, 15h30, j'étais à la salle, jusqu'à 17h30, à 18h, j'étais en cuisine jusqu'à minuit.
M6 vous appelle pour Cauchemar en cuisine. Lors du premier numéro, ce sont vos premiers pas devant la caméra. Vous êtes assez tendu, personne ne vous reconnaît. C'est la productrice Florence Duhaillot qui raconte. Et ensuite, on va vous entendre face à la patronne d'un resto en déroute. La dame travaille avec son fils, mais elle n'ose rien lui dire, contrairement à vous.
La méthode de Philippe Etchebest, c'est quoi? C'est déconstruire pour reconstruire. Donc quand il arrive, il est quand même un peu rude.
Seulement, je veux que ça sorte de votre bouche.
Peut-être que je protège.
J'ai bien compris. Dites-moi vraiment ce que vous pensez du travail de votre fils.
Mais
dites-le-moi,
quand
merde.
Quand il veut, il bosse bien.
Mais il bosse pas. Oh, Annie, allez,
il fait son
arrêtez.
Boulot derrière le comptoir, quand même, avec dans la cuisine.
Mais derrière le bar. Mais s'il reprend la maison, c'est pas derrière le bar que je veux le voir, moi.
Bon, bien sûr, il faut
c'est pas derrière le bar que je veux le voir. Je veux le voir partout, je veux le voir. J'ai rien à faire. Pas rester derrière le bar à attendre que ça passe. Et à essayer deux verres et faire trois cafés. C'est pas ça, reprendre une affaire. Vous le faites bien, vous êtes partout, à droite, à gauche.
Bim, c'est carrément un uppercut. Alors j'ai appris en préparant cette interview que les candidats de l'émission Cauchemar en cuisine doivent passer un certificat médical qui atteste qu'ils peuvent passer à la télé. C'est si risqué que ça de faire une émission avec vous, Philippe Etchebest?
Non, c'est vrai quand même que psychologiquement, c'est quand même un peu dur. Je vais pas de main morte, mais ça fait partie aussi de ma stratégie et d'être efficace parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc il y a quand même un examen médical parce que émotionnellement, c'est quand même assez fort. Mmh. Hein, il faut être prêt à ça. Donc le casting est assez dur quand même. Le cahier des charges est très important.
Nous aussi, on est émus, on marque une pause. On se retrouve tout de suite après avec vous, Philippe Etchebest.
Soirée spéciale sur M6 consacrée au chef Philippe Etchebest avec un numéro de Cauchemar en cuisine inédit suivi d'un documentaire qui retrace son parcours. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
21h05 sur M6 ce soir, soirée spéciale consacrée au chef Philippe Etchebest. Il est avec nous pour en parler, Philippe.
J'en arrive à l'émission Top Chef, émission emblématique de cuisine sur M6, émission dans laquelle il y a une épreuve non moins emblématique. Qui peut battre Philippe Etchebest? Par définition, vous êtes le seul à pouvoir la faire, mais Hélène Darroze, membre du jury, avoue que jamais elle n'aurait osé prendre le risque de se faire battre par un inconnu. Pareil pour Michel Sarran, d'autant que vous n'êtes pas armes égales, vous avez moins de temps que les candidats pour réaliser la recette. Pourquoi vous prenez un tel risque, Philippe Etchebest?
Parce que ça m'amuse. Je suis très joueur dans l'âme. Et puis, ça me permet finalement de me confronter aux candidats, mais de leur amener un petit peu une espèce de carotte, voilà, une espèce de motivation supplémentaire pour me battre. Mais voilà, une fois de plus, je suis un compétiteur. Ouais. J'aime ça et puis j'aime m'amuser, j'aime prendre ce risque-là.
Et si vous perdez?
C'est pas grave. C'est pas grave, c'est aucune importance. Je donnerai tout, une fois de plus, c'est de trouver de l'amusement et puis une certaine complicité avec les candidats. Voilà, je me rapproche encore plus d'eux finalement en faisant ça. Et je trouve que j'ai d'autant plus de légitimité à les noter puisque moi aussi je peux le faire.
On va parler d'un autre combat, on va parler du coronavirus. On sort d'une épreuve terrible pour toute la France et spécialement pour les restaurateurs, le confinement. Les restaurants commencent à peine à réouvrir. Dans quel état sont-ils?
Alors c'est mitigé, il y a des restaurants qui fonctionnent et notamment sur les côtes, c'est vrai que les gens avaient envie aujourd'hui de retrouver le chemin des restaurants, mais on va dire que les clients se bousculent pas au portillon non plus, et en plus avec la distanciation physique et tourner à moitié de sa capacité, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à atteindre son seuil de rentabilité, en tout cas pour beaucoup. Donc c'est pas simple.
Je vous pose la question, Philippe Etchebest, parce que pendant le confinement vous êtes monté au front pour défendre les intérêts des restaurateurs. Je précise que ce soit aussi bien les petits bistrots que les gros 3 étoiles gastronomiques. Vous faisiez cette prophétie il y a 2 semaines. J'ai trouvé ça dans le Midi Libre du 31 mai. Vous disiez 60 à 70% des entreprises ne vont pas rouvrir. Soit elles vont couler, soit elles ne pourront pas s'adapter aux mesures sanitaires. J'espère que vous êtes trompé et que c'est pas, le tableau n'est pas aussi dramatique que ce que vous dites.
Alors 60-70%, je pense pas avoir dit ça. J'ai annoncé plutôt 30% de faillite. Ouais. Ça c'est sûr, entre 30 et 40% de faillite d'ici la fin de l'année. Ouais. Ça c'est certain. Mais il y aura de la casse si on ne fait rien aujourd'hui. On s'est battu avec mon groupe de travail justement pour apporter une solution, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut être fort justement de solutions derrière. C'est ce que nous avons fait avec mon groupe de travail. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas trop été entendu. On attend un retour du cabinet de Bruno Le Maire, justement, sur des propositions qui pourraient continuer à aider la profession dans cet accompagnement, parce qu'on sait que la reprise économique, elle va être très compliquée.
Ça allait justement être ma question. Vous avez mis en place un groupe, vous avez été remarqué par des ministres avec qui vous avez échangé, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, c'est monté jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, avec qui vous avez fait une conférence de près de 3 heures. après les belles paroles, que s'est-il passé dans les actes ?
Dans les actes, il y a eu des aides qui ont été apportées par l'État avec des prêts garantis, avec bien sûr le chômage partiel. Mais j'ai envie de dire, les prêts garantis par l'État, il va falloir les rembourser à un moment donné ou à un autre. Et tout ce qui a été repoussé aussi. Donc, il y a une espèce de bulle d'air qui est éphémère, mais qui, dès la rentrée, va avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires des entreprises. Parce que avec 3 mois de fermeture pratiquement et 0 chiffre d'affaires et une activité à moitié, ça va être compliqué de pouvoir absorber tous ces coûts, tous ces emprunts qui ont été faits derrière.
Vous étiez aussi très remonté contre les assurances. Est-ce que ça s'est assoupli ? Est-ce qu'ils se sont assouplis ?
Alors, c'est vrai que les assurances n'ont pas vraiment joué le jeu au départ. Il y a eu une table ronde quand même où AXA est venu autour de cette table. Ça a été une main tendue et je les en remercie. Malheureusement, une fois de plus, le cabinet de Bruno Le Maire et à Bercy n'ont pas voulu entendre cette proposition où les assurances étaient prêtes à abonder dans un fonds solidaire. Maintenant, voilà, une fois de plus, on attend le retour avec impatience et on espère qu'ils auront trouvé des solutions meilleures que la nôtre pour pouvoir aider tous les restaurateurs qui, aujourd'hui, sont quand même en grande difficulté. Alors, je parle des restaurateurs, mais il y a les artisans, les commerçants. Tout ça est un secteur d'activité qui a été très, très touché. Et nous sommes une espèce de locomotive et beaucoup de secteurs dépendent de notre économie aussi. Donc, si nous, on fonctionne mal, les autres iront mal aussi.
Comment vous voyez l'été ? Est-ce que les Français qui vont partir en vacances en France et non plus à l'étranger vont compenser la non-présence des touristes étrangers ?
Alors, je pense en partie certainement. Je pense que les Français, ils ont envie de partir en vacances. Donc, ils iront vers des destinations qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir. Ça, c'est une bonne chose pour la France, en règle générale, et pour le tourisme français. Maintenant, est-ce que ça suffira à combler le manque de touristes en France pendant cette période ? Je ne sais pas, j'en suis pas si sûr en tout cas.
Parfois, vous n'avez pas envie, Philippe Etchebest, de tout envoyer promener, de taper sur tout le monde. Je veux dire pourquoi je vous demande ça. Parce que dans le doc, on voit que vous jouez de la batterie et vous tapez très très fort et vous n'êtes pas ridicule. Ça, c'était pour la fête de la musique l'an passé. C'est quoi votre prochain projet ?
C'était la fête de musique cette année.
Bon, ça s'est pas fait.
C'est mort.
Vous allez ouvrir une deuxième adresse à Bordeaux, c'est ça ?
Oui, j'ai un projet au Chartron, effectivement, qui devrait voir le jour en début d'année prochaine, qui a dû s'arrêter aussi à cause du confinement, ouais. Mais voilà, j'ai un autre projet, effectivement.
Et en télévision ?
En télévision, écoutez, là pour l'instant, alors, je suis en train de tourner Objectif Top Chef dans la région de Bordeaux, bien sûr, et pour l'instant, voilà, ça s'arrête là. Et puis il y a le restaurant, il y a la reprise aussi, donc il y a du boulot, on va dire, il y a beaucoup de travail.
Vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Philippe Etchebest. Je rappelle, soirée spéciale sur M6 ce soir avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine, suivi d'un documentaire, Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci.
Culture Média qui continue évidemment avec dans quelques instants le journal de la culture, puis notre invité Ariel Dombal pour son album Empire ou Empire, en duo avec le chanteur et musicien Nicolas Kerr. À l'écoute de ce disque, une question revient, les couples les plus mal assortis seraient-ils destinés à créer les œuvres les plus terrassantes ? Pas impossible. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino évidemment, et puis dans les indispensables de la cuisine, que pouvons-nous consommer ou pas pendant l'été ? Marion Sauveur va nous le dire. Et puis de l'humour avec la série Humoriste du Monde sur Netflix, 47 humoristes de 13 régions du globe nous parlent de notre monde en sketch. Ce sera avec Louise Bernard, mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.